e-podcast.
Un podcast qui vous plonge dans nos enquêtes sur l'éthique en entreprise et sur le web.
Réalisé avec bienveillance par Lily
et Marine de l'agence Web Hippocamp.
Une agence en pleine transition éthique.
Tous les trois mois, on explore une nouvelle initiative éthique que l'on veut mettre en place dans l'agence. L'occasion de sensibiliser et de se former pour accélérer notre transition éthique. Et quoi de mieux pour se former que de faire intervenir des experts et expertes passionnés par ces différents sujets? Vous aussi, vous voulez rendre vos pratiques plus éthiques? Alors plongez avec nous dans l'enquête. On vous embarque dans nos rencontres et nos échanges à travers une série de podcasts qui vous accompagnent au cœur de nos enjeux éthiques. De quoi vous inspirer avec des solutions concrètes pour votre activité professionnelle.
Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode, on continue sur le thème de l'accessibilité et l'inclusion numérique en explorant son cadre légal. Il existe en effet des lois pour encadrer l'accessibilité numérique dans les entreprises. Mais sont-elles vraiment respectées et appliquées? C'est ce que nous avons essayé de découvrir dans ce podcast. Dans ce deuxième épisode, nous sommes accompagnés de Fernando Pinto da Silva, chargé de mission stratégie numérique dans la Fédération des aveugles et amblyopes de France, président de la commission accessibilité, conception universelle et numérique du Conseil national consultatif des personnes handicapées et membre actif chez Brainet. Nicolas Karasiewicz, éveilleur de conscience, conférencier et consultant en stratégie et diversité. Julie Moïna, consultante en accessibilité web et intégratrice web, associée chez COPSAE, aussi connue sous le nom de la lutine du web. Natacha Blasquez-Igomez, chef de projet web et consultante marketing digital, cofondatrice de l'association Product for Good. Vous êtes bien installée? Alors c'est parti, plongez avec nous dans la suite de notre enquête sur l'inclusion et l'accessibilité numérique. Pour se lancer dans le vaste sujet qu'est le cadre légal autour de l'accessibilité et l'inclusion numérique, il était essentiel d'avoir une vision d'ensemble. Nicolas nous fait un état des lieux pour vous resituer dans le contexte actuel.
Il y a eu des évolutions, mais aujourd'hui, c'est encore relativement timide. Pourquoi? Parce que on a mis le sujet sur la table, mais on n'a pas expliqué comment faire. Et donc, ce qui fait que tout le monde a cette prise de conscience, finalement, qu'il faut travailler la question de l'inclusion, de l'accessibilité, tout comme d'ailleurs les enjeux environnementaux. Tout le monde se dit, vous allez demander à n'importe quel chef d'entreprise, il ne va pas vous dire, écoutez, non, moi, le développement durable, je m'en fous. L'inclusion, c'est pareil. Moi, il n'y a personne qui va me dire, non, écoutez, les personnes handicapées, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai déjà entendu, mais dans tous les cas, on a beaucoup de mal à me dire non, votre sujet ne me concerne pas, mais par contre, soit on ne sait pas comment faire, et c'est là où il y a besoin de me donner des outils et de mettre en lumière les outils, les solutions technologiques qui existent, de former. Et là, pour le coup, je fais une parenthèse, école de com, école de marketing, parce que les étudiants qui sortent de ces grandes écoles aujourd'hui ne sont pas formés ou très peu à la question de l'accessibilité numérique et de la communication inclusive. Donc il y a aussi ce problème-là. Et donc il y a des évolutions qui sont timides parce que justement, on n'a pas une approche globale, mais on va mettre un pansement en disant, voilà, les sites internet ils sont pas accessibles, donc il faut une loi. Mais quelle approche globale on a sur le sujet dans notre pays et à l'échelle européenne? Pour le moment, c'est très compliqué d'en avoir une.
Maintenant que nous avons ces enjeux globaux en tête, rentrons dans le vif du sujet. Vous vous en doutez, il existe des lois génériques qui influencent la prise en compte de l'accessibilité et l'inclusion numérique. Natacha nous les expose.
Il y a par exemple l'article 11 qui est sur la liberté d'expression et d'information. Donc finalement, la liberté d'information, s'il n'y a pas d'accessibilité numérique, s'il n'y a pas d'inclusion digitale, en fait, cette liberté d'information, elle est bafouée puisque tout le monde n'a pas accès aux mêmes éléments que tout le monde. On a aussi deux autres articles dont je voulais mentionner. On a les articles 21 sur la non-discrimination et l'article 26 sur l'intégration des personnes handicapées. Donc effectivement, ça reste très général, mais ça intègre quand même tout ce qui est digital.
Ces différentes lois répondent déjà en grande partie aux enjeux identifiés dans l'épisode 1 sur les bases de l'accessibilité et l'inclusion numérique. Prenons la loi sur la liberté d'expression, par exemple. Ne pas prendre en compte l'accessibilité revient ici à priver certaines personnes de leur droit de s'exprimer, ce qui est totalement illégal. Rentrons maintenant dans le détail du cadre légal. Fernando nous déroule chronologiquement la liste des lois spécifiques à l'accessibilité numérique.
Alors moi, je vais parler exclusivement de ce qui existe en matière d'accessibilité numérique, puisque c'est sans doute ce que je maîtrise le plus. Okay. Et vous verrez qu'il y a déjà matière à expliciter un certain nombre de notions. Ce droit à l'accessibilité numérique, il est reconnu dans la loi française depuis le 11 février 2005, dans une grande loi d'orientation concernant le handicap, à son article 47. Cet article 47, il prévoyait un certain nombre de décrets et d'arrêtés pour rendre les modalités de communication accessibles à toutes et à tous. En 2009, on a eu successivement un décret et un arrêté pour tout ce qui était interface numérique publique, qui fixait des échéances à 2011 pour les services de l'État et les grandes collectivités, et 2012 pour le reste du secteur public. Et donc, honnêtement, 2012 arrive et très très peu de choses de fait en matière d'accessibilité numérique, donc pas de respect du cadre légal ni réglementaire, et en réalité, pas de sanctions, puisqu'à l'époque, malgré la demande du secteur associatif, aucune sanction n'avait été prévue pour des faux d'accessibilité. Là-dessus, en 2014, l'association Brainet, pour rendre ça un peu plus évident, fait une étude sur un échantillon de 600 sites publics. Et sur ces 600 sites publics, rapidement audités, on fait apparaître que seulement 3,7%, j'ai bien dit 3,7% de ces sites internet à l'époque, avaient des caractéristiques liées à l'accessibilité numérique, en fait. Donc, on voit que la marche était encore très importante. Et en 2016, interviennent deux textes pour renforcer cette accessibilité numérique. Le premier nous vient de l'Europe, au travers de la directive européenne UE 2016-2102, qui cherchait à harmoniser le droit à l'accessibilité numérique pour l'ensemble des pays de l'Union. Et le deuxième texte, en 2016, résulte de la loi République numérique au travers de deux articles particuliers, l'article 105 pour une accessibilité universelle à la téléphonie et notamment pour permettre aux personnes sourdes, sourdes aveugles et aphasiques de pouvoir téléphoner, et l'article 106 qui lui réadressait l'accessibilité numérique en fixant de nouveaux objectifs, en particulier pour le secteur privé, puisque lui, jusqu'à présent, si vous avez suivi ce que je disais, n'était pas impacté par la loi telle qu'elle avait été promulguée en 2005. Cette directive européenne et ces articles de loi de la loi République numérique de 2016 ont nécessité d'une part de faire réécrire l'article 47 de la loi du 11 février 2005, et d'autre part, de sortir des textes réglementaires pour consolider le droit. C'est ce qui s'est fait en 2018 au travers de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, au travers de l'article 80, qui lui-même a modifié l'article 47 de la loi du 11 février 2005 pour renforcer le droit et les obligations en matière d'accessibilité numérique. Et au travers de décrets d'arrêtés qui sont sortis suite à la promulgation de cet article 80 de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, pour fixer les seuils, notamment à partir desquels les entités privées seraient sujettes à respecter les obligations en matière d'accessibilité numérique. Le seuil, il a été fixé à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les entités. Et donc, pour les entités privées réalisant un chiffre d'affaires à plus de 250 millions d'euros, ou pour n'importe quel service public, qu'il soit réalisé par le service public lui-même ou qu'il ait été délégué à une entité privée pour réalisation pour le service public ou que ça soit une structure privée qui ait la mission d'un service public, tout ça c'est considéré comme du service public. Et donc tous les services publics en France aujourd'hui et les entités privées réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros doivent se conformer aux obligations. Alors, ces obligations, quelles sont-elles ? Ces obligations, c'est d'abord et avant tout d'afficher sur la page d'accueil ce qu'on appelle une déclaration d'accessibilité. C'est-à-dire que dès qu'on arrive sur la page d'accueil d'un site internet, et même depuis juin 2021 d'une application mobile, on doit dire si le service est accessible ou pas. C'est-à-dire qu'on va dire accessibilité conforme ou totalement conforme, accessibilité partiellement conforme ou accessibilité non conforme. Il ne suffit pas de le dire, il faut aussi publier un audit pour le prouver. C'est-à-dire de dire, ben voilà, il y a eu un audit qui a été réalisé à tel moment, sur tel échantillon de page, on a satisfait tel pourcentage de critères en matière d'accessibilité, je te reviendrai tout à l'heure, et donc on peut dire qu'on est pleinement accessible, partiellement accessible ou pas accessible. Si on est partiellement accessible ou pas accessible, on doit assortir cette déclaration de l'accessibilité d'un schéma pluriannuel indiquant dans les 3 ans ce qu'on va faire pour rendre son service accessible. S'il n'y a pas de déclaration d'accessibilité, le service en question encourt jusqu'à 20 000 euros de sanctions par infraction constatée. Admettons par exemple que je sois un gros fournisseur d'accès à l'Internet, que j'ai par exemple 300 sites. Si je n'affiche pas ma déclaration d'accessibilité pour chacun des sites en bonne et due forme, et si je réalise un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros, ce qui a priori doit être le cas d'un gros fournisseur d'accès à Internet, eh bien là j'encours potentiellement jusqu'à, si je reprends mon exemple, 300 fois 20 000 euros. Maintenant, de quoi on parle quand on parle de ces critères d'accessibilité ? On parle, pour le secteur public, du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, ce que les professionnels de l'accessibilité numérique appellent le RGAA. Et donc, ce RGAA a 106 critères qui décrivent précisément ce qui doit être fait pour qu'un service soit considéré comme accessible. Ces 106 critères, ils ne sont pas franco-français, ils découlent d'une norme européenne, qui est la norme européenne qui s'impose à tous les services publics pour l'ensemble des pays de l'Union, donc c'est la norme EN 301-549. Et cette norme européenne, elle-même, découle des recommandations édictées par le consortium qui régit l'Internet, donc le W3C, au travers de son groupe, donc le WAI, qui ne s'occupe que d'accessibilité. Et ce WAI du W3C édicte des recommandations au niveau international qu'on appelle les WCAG. Donc, je récapitule, on a un référentiel français pour les services publics qui découle lui-même d'une norme européenne qui s'impose à l'ensemble des pays de l'Union, qui elle-même, bien évidemment, découle des recommandations internationales. La seule chose, c'est que l'Europe en a fait une norme pour que ça puisse s'appliquer à l'ensemble des pays de l'Union. Pour les entités privées, dans la mesure où elles peuvent avoir des marchés qui ne sont pas strictement franco-français, là, le législateur leur donne la possibilité de se référer au texte qu'elles préfèrent. C'est-à-dire que si elles préfèrent aller vers le référentiel technique franco-français, elles peuvent s'appuyer sur ce référentiel. Si elles veulent s'appuyer sur la norme européenne, elles peuvent dire, ben voilà, moi j'ai pris comme base de référence la norme européenne qui reprend les mêmes critères, mais les reformule peut-être un peu différemment, donne peut-être un peu plus, on va dire, de latitude en termes d'interprétation des critères notamment. Ou elles peuvent même, ces entités privées, toujours se référer aux recommandations internationales si dans leur secteur d'activité, ça s'avère importants. Je pense notamment à des structures américaines qui peuvent faire du commerce en France et qui, évidemment, ne vont pas nécessairement, parce qu'elles n'ont qu'un site unique, faire d'une façon pour la France et d'une autre façon pour les États-Unis, par exemple. Mais ça, je le redis pour être très clair, le choix de se référer au référentiel français, à la norme européenne ou aux recommandations internationales édictées par le W3C, ce n'est possible que pour les entités privées réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Pour l'ensemble des sites publics, pour le coup, c'est bien le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité qui fait.
Vous devriez maintenant être au clair avec les législations auxquelles sont confrontés les organismes privés et les entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Mais qu'en est-il des autres ? Comme notre agence ou votre activité par exemple ? Fernando nous l'explique.
Maintenant, on peut aussi se dire, bah, très bien, alors on voit à peu près le cadre pour le public, on comprend un peu pour le privé, mais quid des entités privées qui réalise un chiffre d'affaires inférieur à 250 millions d'euros. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation formelle à le faire. La seule incitation qu'on puisse proposer, c'est de dire, ben, si vous concevez un service et qu'il n'est pas nativement accessible, vous allez exclure les publics. Donc finalement, vous allez, par exemple, vous priver d'une part, peut-être même non négligeable, de vos clients, par exemple. Donc, c'est aujourd'hui peut-être une des choses qu'on peut mettre en exergue auprès de ces structures qui n'ont pas d'obligation légale. Mais c'est aussi leur donner rendez-vous, parce qu'on a un acte européen d'accessibilité paru au Journal officiel de l'Union européenne le 7 juin 2019 qui prévoit la mise en accessibilité des biens et des services pour l'ensemble de l'Union européenne et donc des services numériques des entités privées, à l'exclusion de ce que l'Union européenne appelle des micro-entreprises, c'est-à-dire, de ce que j'en ai compris assez récemment, les entités qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Et donc, ce texte, paru au Journal officiel en juin 2019, prévoit, d'une part, que l'ensemble des pays de l'Union aient transposé cette directive dans leurs droits nationaux d'ici le 28 juin 2022, et d'autre part, que ce droit soit effectif au 28 juin 2025. C'est-à-dire que, notamment, que les services numériques de ces entités privées soient accessibles en dernier recours au 28 juin 2025. Et pour ceux qui font du numérique au quotidien, on réalise ce podcast en octobre 2021, parler d'une effectivité d'un droit à l'accessibilité numérique pour quasiment l'ensemble des entités privées à horizon 2025, en réalité, c'est déjà demain. Parce que ça veut dire soit mettre un nouvel outil en production prochainement, soit faire des mises à jour de cet outil numérique. Donc, il n'y a pas d'obligation formelle pour ces entités privées qui réalisent un chiffre inférieur à 250 millions d'euros. En revanche, il y a déjà un rendez-vous de fixer au 28 juin 2025 pour que leur service numérique soit accessible à tous.
Aujourd'hui, on constate qu'il y a encore peu d'initiatives accessibles motivées uniquement par des convictions altruistes. C'est un peu une politique de la carotte et du bâton, comme le résume Nicolas.
Au final, aujourd'hui, on a, dans notre pays, mais c'est le cas sur plein d'autres sujets, une approche qui est quand même souvent très descendante. C'est-à-dire, c'est, on vous dit de faire ça, et si vous ne le faites pas, c'est la carotte ou le bâton, en quelque sorte. C'est le cas aussi aujourd'hui dans le sujet de l'accessibilité numérique, parce que... Mais je pense qu'à un moment donné, il faut le faire. Hein. Oui, parce qu'on a, alors juste pour dire, hein, voilà, on a incité, on a dit aux entreprises qu'il fallait le faire. Elles ne l'ont pas fait. C'est la même chose pour l'emploi des personnes en situation de handicap dans le monde du travail aujourd'hui. Voilà, ça fait quelques années qu'on incite à le faire. Bah, si on ne le fait pas, à un moment donné, oui, il faut prendre des sanctions. Mais je ne pense pas que ce soit le premier levier qu'il aurait fallu actionner. Moi, je fais beaucoup de pédagogie dans mon quotidien parce que je pense qu'on a besoin de former, d'informer, d'expliquer en fait le pourquoi du comment. Et là où la législation pêche un petit peu, c'est justement là-dessus. C'est de dire, si vous ne le faites pas, hop, on vous tombe dessus. Et vous vérifiez, vous regarderez que sur le terrain, au quotidien, les contrôles, finalement, pour vérifier que les sites Internet sont accessibles ou pas, il n'y en a pas beaucoup. Alors, moi, j'espère beaucoup de la législation européenne, et j'en discutais avec Thierry Breton il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a aujourd'hui des éléments qui font que on espère que, grâce au levier européen, les choses évoluent. Mais on ne pourra pas le vérifier tout de suite. Et c'est pour ça que d'ailleurs d'autres pays sont un peu plus en pointe que nous. Voilà, vous avez regardé ce qui se fait aux États-Unis, la législation n'est pas la même. Et du coup, les gros acteurs, comme ceux qu'on connaît et qu'on utilise au quotidien, bah, ils se sont saisis du sujet parce que ils ont vu le potentiel, mais parce qu'on leur a expliqué, et puis parce que les associations là-bas sur place ont fait un travail. Avec, évidemment, dans un premier temps de pédagogie, dans un deuxième temps de mobilisation, et puis dans tous les cas, tout le monde y trouve son compte parce que économiquement, les utilisateurs sont contents parce qu'ils peuvent, aller sur Google ou sur Facebook, et puis les opérateurs sont tout aussi contents parce que du coup ils gagnent en utilisateurs.
Pour avoir une bonne vision d'ensemble, nous voulions comparer le cas de la France au cadre législatif international. Fernando nous fait un tour d'horizon non exhaustif de la situation en Europe par rapport à la France.
Je n'ai pas de classement récent en tête. On met souvent en exergue ce que faisaient les Anglais. Alors bon, maintenant, évidemment, ils font plus partie de l'Union européenne. Mais en l'occurrence, ils avaient quand même travaillé la question de façon assez importante. On a sur d'autres thématiques le Portugal aussi, par exemple, qui fait des choses intéressantes. Je ne dis pas qu'il soit le premier, ce n'est pas ça, mais en tout cas, il revient régulièrement sur la table. Il a mis en place des observatoires avec des indicateurs qui sont assez intéressants. Il y a des choses aussi autour de l'accès aux personnes sourdes au travers de différentes initiatives qui ne sont pas toujours saluées d'ailleurs par les publics eux-mêmes, mais voilà, on sent en tout cas qu'il y a des pays où on considère cette question beaucoup plus que chez nous. Après, sur la question de savoir comment la France se situe par rapport à l'Europe, c'est un peu compliqué. On a des études qui datent un peu. On a des chiffres qui mériteraient sans doute d'être consolidés. Mais on pense aujourd'hui, en croisant différentes données, que la France est dans le dernier tiers des pays européens. En prenant en compte un certain nombre de secteurs publics, privés, etc., on est dans le dernier tiers. Donc on voit, on a accusé un retard important, malgré les législations, malgré je dirais un certain nombre d'efforts, hein, faut quand même le dire aussi, mais il reste encore beaucoup, beaucoup à faire. Et notamment, les saisines individuelles dont je parlais tout à l'heure auprès du secrétariat d'État aux personnes handicapées est finalement un symptôme de ce malaise, c'est-à-dire de dire qu'on en soit encore à 2021 à quémander le bon accès à telle ou telle banque, tel ou tel site d'achat en ligne, tel ou tel département. Ça met quand même en évidence là, qu'il y a un vrai, vrai problème. Donc voilà où on en est a priori aujourd'hui, en octobre 2021.
Natacha, quant à elle, nous a éclairé sur le contexte législatif aux États-Unis.
Alors, il y a eu quelques évolutions, à mon sens, qui ne vont pas assez loin. Avant de effectivement utiliser le cas de la France, je vais juste utiliser le cas des États-Unis, où pour le coup, eux, ils ont des lois qui sont très contraignantes, et ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises vont essayer effectivement de se conformer aux règles d'accessibilité, tout simplement parce que derrière, on va leur taper sur les doigts justement s'ils ne le font pas.
À la lumière de ce contexte législatif international, on s'est demandé s'il y avait un écart d'investissement entre les pays. Fernando nous répond et développe l'exemple de Walmart aux États-Unis.
C'est très disparate en réalité. Je pense que j'ai l'impression que c'est par secteur. C'est-à-dire que je pense que certains secteurs commencent à le comprendre. Aussi parce que le numérique fait qu'on n'est plus entre nous. C'est-à-dire que vous ne faites pas un service numérique pour la France, un service numérique pour les Belges, un service numérique pour les Suisses. Si vous êtes francophone, à la limite, aujourd'hui, quand vous consommez un bien culturel en ligne, peu importe que ce soit la France, la Belgique ou la Suisse romande qui le mettent en place, en fait, si ça vous donne accès à ce que vous cherchez, en réalité, vous n'êtes pas à vous dire c'est un service de tel ou tel pays. Donc du coup, dans certains secteurs, ça s'organise en disant bon, il faut qu'on travaille cette question parce qu'on doit pouvoir adresser convenablement l'ensemble de nos publics. Et puis même parfois, ça vient de loin aussi, hein, c'est-à-dire que comme le numérique, c'est, comme je viens de le dire, par essence international, on a parfois des réglementations qui sont beaucoup plus dures, qui font qu'on a accès à des produits beaucoup plus accessibles en Europe. Alors à quoi je me réfère ? Par exemple, aux États-Unis, on a ce qu'on appelle la section 508, qui fait que la chaîne de supermarché Target, par exemple, a fait l'objet d'un communiqué de The National Federation of the Blind, donc l'équivalent x10 puissance 15 de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, mais aux États-Unis. Le communiqué disait en gros, on constate que la plateforme d'achat de Target n'est pas accessible, et donc il va falloir qu'elle fasse le nécessaire pour qu'elle le soit, parce que sinon on va intenter une action. La section 508 le permet, et elle permet même d'aller beaucoup plus loin, puisqu'elle permet aussi de travailler cette question sur le matériel. Et notamment, quand le département d'État, je crois que c'était en 2012-2013, annonce qu'il va doter les ambassades des États-Unis autour du monde de liseuses Kindle, il a suffi que The National Federation of the Blind émette un communiqué de presse en disant qu'il prenait acte de ce marché public, mais que ils constataient que le Kindle était inaccessible et qu'en conséquence de quoi ils allaient introduire une action en justice. Ça a suffi pour que le département d'État suspende le marché public et pour qu'Amazon fasse le nécessaire pour rendre ces Kindle accessibles. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, un consommateur français peut acheter un Kindle et l'utiliser, même s'il est en situation de handicap visuel, avec une synthèse vocale incorporée, avec la possibilité par moment même de connecter un afficheur braille en Bluetooth, etc. Excellent. Et ça nous vient aussi d'autres législations qui sont sans doute un peu plus musclées en matière de droit et qui nous permettent à nous ici, même si nos législations sont beaucoup plus souples et beaucoup plus permissives, mais qui nous permettent à nous de consommer dans de meilleures conditions.
Et est-ce que vous pensez que l'optimisation de l'accessibilité sur des marchés internationaux, comme vous venez de le citer aux États-Unis, influence les marchés français ? Est-ce que les marques en France se disent si les marques américaines peuvent le faire, pourquoi pas nous, quoi ? Ou ça, c'est pas du tout.
Alors, est-ce que ça les influence ? Pour certaines, oui, c'est même totalement sûr. Au point même qu'à un moment donné, 2-3 ans, on s'était aperçu que certaines marques de luxe en France faisaient des sites accessibles pour les États-Unis, alors qu'en France, leur site était inaccessible. Donc, ça met en évidence, en tout cas, que le souci existe. Hein, c'est-à-dire qu'elles ont bien identifié que pour être présentes sur le marché américain, si elles souhaitaient vendre, il fallait qu'elles fassent le nécessaire pour se conformer à la section 508. Après, je pense qu'elles ont aussi conscience du fait qu'on les a vues faire, hein, et on leur a dit, d'ailleurs. Donc là, les choses sont en train de là aussi se corriger pour que leurs interfaces en France soient également accessibles. Mais en tout cas, oui, elles ont bien perçu que les législations pouvaient être beaucoup plus contraignantes ailleurs et que si elles voulaient être présentes sur ces marchés, elles n'avaient pas d'autre choix que de faire le nécessaire pour rendre leurs interfaces accessibles. Donc du coup, à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, ça fait quand même naître une culture d'entreprise sur l'accessibilité numérique. Et donc si vous faites accessible pour un marché donné, en réalité, très vite, vous vous mettez à le faire pour l'ensemble des marchés.
On note un réel écart entre la France et d'autres pays, comme les États-Unis notamment. On s'est donc demandé si ce n'était pas dû à l'investissement de nos décisionnaires sur ces enjeux d'accessibilité. Julie considère qu'il y a un réel décalage entre la prise en compte du handicap dans la loi et les besoins réels des personnes concernées.
Je pense qu'ils n'ont pas conscience de la hauteur des enjeux. Parce que les enjeux, ils les connaissent. Mais l'impact que ça a, je pense que ce n'est pas bien mesuré. En fait, en France, là, je vais juger ce qui se passe actuellement, mais actuellement, le gouvernement, en fait, passe son temps à faire des campagnes de communication qui font rager les personnes handicapées qui militent pour leurs droits. Par exemple, la dernière campagne sur voir la personne avant le handicap, elle fait beaucoup grincer des dents les personnes handicapées. Pourquoi ? Parce que dans la réalité, les gens ne font que ça, en fait, de ne pas vouloir voir le handicap des personnes. Et oui, c'est commode, parce que s'il n'y a pas de handicap, il n'y a pas de besoin d'accessibilité à prendre en compte. Donc cette campagne, en fait, elle est totalement absurde, et elle a coûté je ne sais plus combien d'argent public qui aurait pu servir, en fait, à rendre des citoyens accessibles. Au lieu de faire de la communication comme ça, avec des vidéos et des images qui coûtent très cher pour pas grand-chose. Et puis, en fait, on a la même chose qui se passe avec le Duodé. Vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est une journée où les personnes handicapées sont invitées à venir faire un stage auprès de vrais professionnels, comme si les personnes handicapées qui ne travaillent pas... C'est juste parce qu'elles se mettent elles-mêmes des barrières, en fait. C'est pas du tout parce qu'elles sont pas du tout plus au chômage que les personnes valides, parce que la société leur met des barrières et est inaccessible. C'est pas du tout ça le problème, non. En fait, les temps partiels sont très souvent refusés, les adaptations de poste ne sont pas appliquées. Donc les personnes handicapées, en fait, juste ne peuvent pas toujours être incluses dans les... la société telle qu'elle est aujourd'hui, et les employeurs ne sont pas forcément sanctionnés non plus. Donc, sur le Duodé, aujourd'hui, on ne sait pas combien ça coûte, on ne sait pas combien de personnes sont embauchées en CDD ou en CDI suite à cette journée. Le gouvernement a communiqué sur 10% de personnes handicapées qui participent au Duodé et qui obtiennent ensuite un stage, une alternance, un CDD ou un CDI. Donc déjà, ces 10%, ce n'est pas grand-chose, mais... Il y a combien de contrats salariés au final parmi ces 10%? On ne sait pas.
Par rapport à ce Duodé, moi j'ai été un peu mal à l'aise. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a participé au Duodé, du coup, avec un jeune influenceur qui n'est autre que Arthur Baucheron. Je n'ai pas le nom exact de sa maladie, mais c'est un jeune homme de 18 ans qui est en fauteuil roulant. Et ça faisait un peu « j'aimerais avoir de la visibilité auprès des jeunes ». Enfin, j'étais vraiment très mal à l'aise par rapport aux stories qu'ils mettaient. Aussi bien la position de Arthur qui rencontre Emmanuel Macron et qui lui dit « ça va Arthur, tu passes une bonne journée », comme si c'était un garçonnet
qui rencontre. L'infantilisation des personnes handicapées, c'est tout le temps. D'ailleurs, si vous regardez le Téléthon, c'est... misérabiliste à fond, en fait. Toutes ces campagnes, parce que enfin, c'est des campagnes de com', hein, au final. Et, sur le Téléthon, il y a Elisa Rojas qui a écrit des choses là-dessus qui sont très intéressantes et qu'il faut lire. Je pense que c'est important de remettre un petit peu en question la façon dont la société... met en scène les personnes handicapées, en fait. Parce que du coup, on ne leur donne pas la parole, on parle toujours à leur place, et puis on les infantilise tout le temps, même si ce sont des adultes.
On peut facilement s'apercevoir que les problématiques du handicap, de l'accessibilité et de l'inclusion sont adressées avec beaucoup de maladresse par les décisionnaires. Julie met en lumière le décalage entre les législations et l'application de ces règles par les services publics.
Là, la réalité aussi, si je reprends l'article 47 de la loi numéro 2502, En fait, aujourd'hui, on attend toujours qu'il y ait un arrêté qui soit publié, qui permette de dire comment sont appliquées les sanctions, où va l'argent, etc. Donc, en fait, la loi, aujourd'hui, elle est moyennement appliquée, mais surtout, elle n'est pas applicable complètement. Et en fait, pourquoi ça n'avance pas? Je pense que c'est aussi parce que, finalement, les organismes publics, risquent de se prendre des amendes aussi. Puisque la majeure partie des sites publics ne sont pas conformes à la loi. Donc, forcément, ça a un impact. Et à mon avis, ça doit être une des raisons, je pense, hein, du fait que ça n'avance pas réellement. Mais il y a un manque de volonté, en fait. Et quand on voit que, on dépense des millions pour des campagnes de com, mais pas pour rendre les sites publics conformes, enfin... C'est dramatique. Et aujourd'hui, là, on a, dans les autres outils de communication, on a le gouvernement qui a mis en place un observatoire de la qualité des démarches en ligne. En fait, c'est 250 démarches publiques, les plus utilisées exactement, qui sont regroupées dans un tableau sur un site web. Dans ce tableau, il y a une colonne qui s'appelle « Prise en compte des handicaps ». Et en fait, dans cette colonne, les démarches ont un oui quand il y a au minimum 75% de conformité au RGA. Donc 75%, ça veut dire quoi? Rien du tout. Parce que si dans les 25% qui restent, il y a un piège au clavier, eh bien la démarche ne sera pas accessible pour les personnes qui naviguent au clavier. Donc les personnes qui ont un handicap moteur au niveau des mains notamment, ou les personnes aveugles, qui naviguent aussi au clavier. La démarche au final, 75% prise en compte des handicaps, il y a un piège au clavier, c'est une blague. Il n'y a pas de prise en compte des handicaps si c'est ça. Donc 75%, ça ne veut rien dire. Et du coup, ce que j'ai pu constater aussi, c'est que le taux qui est affiché au niveau de cette démarche n'est pas forcément le taux de la démarche, mais le taux pour le site web. Et généralement, dans l'échantillon des pages auditées, il n'y a même pas la démarche. Donc ça veut dire qu'en fait, la démarche n'a même pas été auditée. En fait, concrètement, on ne sait même pas son niveau d'accessibilité. Et ça, c'est un sujet sur lequel j'ai alerté et je n'ai pas eu de réponse. Et il n'y a rien qui change. Donc là, on a... des communications où on va rendre pour telle date, on va rendre 80% des 250 démarches accessibles. Alors déjà, si c'est accessible avec le 75% de conformité minimum, c'est pas accessible. Et puis en plus, si l'audit qui est sur lesquels on s'appuie pour donner ce score ne contient pas la démarche, ça marche pas là. Il y a un problème. Donc non, pour moi, il n'y a pas assez d'investissement sur les questions d'accessibilité et c'est dramatique. Alors oui, on peut constater heureusement des améliorations par rapport à il y a quelques années, mais c'est absolument pas suffisant.
Mais alors, qui fait avancer les lois si les décisionnaires ne se sentent pas si concernés que ça? Natacha nous parle du travail des associations pour défendre les problématiques d'accessibilité.
Donc oui, effectivement, on a des associations qui militent pour un web plus accessible, notamment au niveau de la législation, comme par exemple BrightNet, notamment.
Parmi ces organismes qui s'investissent pour l'accessibilité et l'inclusion, on peut aussi parler de l'AFPAP, Access 42, ou encore l'association Valentin A8. C'est évidemment une liste non exhaustive. Toutes ces associations et organismes, vous pouvez les soutenir en y adhérant, en faisant des dons, en signant leurs pétitions, ou bien simplement en vous informant sur les combats qu'elles mènent au quotidien. Malgré notre optimisme légendaire, force est de constater l'énorme décalage entre le cadre législatif et la réalité. Julie nous le rappelle avec beaucoup de réalisme.
Donc les lois qui existent en France, il y en a plusieurs, celles qui concernent... l'accessibilité numérique, en particulier, celle dont on parle le plus, c'est l'article 47 de la loi numéro 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. C'est cet article-là qui oblige un certain nombre d'organismes à rendre, entre autres, leur site web accessible. Alors, je dis entre autres parce que ce n'est pas que les sites web, c'est aussi les applications mobiles, c'est aussi le mobilier urbain connecté, enfin, voilà. Donc, c'est très large. Donc, la première version, comme le numéro de la loi l'indique, c'est 2005. Et en fait, le décret d'application de la loi est paru en 2009. Donc, ça a été un peu long. Et dans ce décret, il a été obligé pour les organismes publics de rendre leur site web accessible pour, en gros, 2011 et 2012. Et en fait, ça n'a jamais été appliqué. Les sites des organismes publics ne sont toujours majoritairement pas accessibles, pas conformes en tous les cas au référentiel français. Et en fait, il y a la dernière version de cette loi, parce qu'elle a été éditée plusieurs fois et elle le sera encore. La dernière version, là, elle date de 2018 et le décret d'application est paru en 2019. Mais ça a l'air bien, parce que du coup, on introduit une amende, tout ça. Sauf que, en fait, cette version, elle est régressive sur d'autres points. Parce qu'avant, on obligeait les sites web à être conformes au RGAA. Et aujourd'hui, on les oblige uniquement à publier certains documents qui justifient du niveau de conformité du site et des actions mises en place pour l'accessibilité. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on va publier sa déclaration d'accessibilité qui dit, par exemple, le site web est accessible à 30%, est conforme, pardon, à 30% des critères du RGAA. On publie un schéma pluriannuel sur 3 ans qui dit, bon, ben, du coup, sur 3 ans, on va mettre ces actions-là en place pour rendre nos services accessibles. Et puis, on publie aussi le plan d'action de l'année en cours. Mais voilà, le site, il a une déclaration à 30% et puis bah, tout va bien. Il est conforme à la loi. Donc l'amende de 20 000 euros par site et par an, c'est pas si le site n'est pas accessible, c'est si le site ne publie pas ces documents-là. Donc ça c'est une régression importante et qui, du coup, pose problème. Et la loi, en fait, elle sera encore revue parce qu'il y a une directive européenne qui doit être intégrée à la loi de chaque pays européen avant le 28 juin 2022. Et elle concernera donc plus d'organismes. Il y aura notamment les sites e-commerce. Donc ça va encore changer à l'avenir. Et j'espère qu'on remettra l'obligation d'accessibilité. Mais ça, je pense que je rêve un peu.
On s'est demandé à quoi était dû ce décalage entre les règles théoriques et la réalité. Nicolas considère que c'est fortement lié à un manque de sensibilisation, d'information, mais aussi de formation.
Oui, parce que ça reste quand même très confidentiel en réalité. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est aussi très confidentiel parce que les gens qui font le numérique ne le voient jamais. Et donc, quand ils le voient, c'est à un moment donné parce qu'il y a un marché, parce qu'il y a un appel d'offres, parce qu'il y a une exigence du décideur. Donc, on est tous d'accord pour dire que si le décideur lui-même n'a pas cette exigence, il y a peu de chances que ça arrive dans un cahier des charges, ça, c'est très clair. Mais dans le même temps, ce qu'on dit quand même, c'est que si cette accessibilité numérique elle n'est pas enseignée dans les formations des métiers du numérique, il y a peu de chances que ça devienne un réflexe.
On a également voulu revenir sur la prochaine échéance européenne sur l'accessibilité. Rappelez-vous, Fernando en parlait un petit peu plus tôt dans cet épisode. Il s'agit de l'Accessibility Act, approuvé par le Parlement européen en 2019, qui entrera en vigueur à partir de 2025. Une loi européenne qui impliquera aussi les entreprises avec un chiffre d'affaires inférieur à 250 millions d'euros dans les enjeux d'accessibilité. Notre question, quel pronostic peut-on faire pour cette échéance de 2025 ?
D'abord, apporter une précision, je ne suis pas forcément enclin à penser qu'en 2025, les entités privées n'atteindront pas l'objectif. Je dis juste que pour qu'elles l'atteignent, il faut qu'elles s'y mettent maintenant. Parce qu'on sait tous que les cycles de développement numérique sont, sont quand même assez complexes et que si elles s'y mettent en 2024, alors là, pour le coup, effectivement, il y a de fortes chances qu'elles n'atteignent pas. Mais je pense qu'on est encore dans une bonne temporalité pour que ça soit atteint, en réalité. Et je peux même vous dire que certains secteurs s'en sont d'ores et déjà emparés. Je pense notamment aux livres numériques, par exemple. On sait que les éditeurs font, pour certains d'entre eux, des efforts pour travailler leur chaîne de production du livre numérique et faire en sorte que les livres numériques qui sont commercialisés sur les plateformes d'achat soient nativement accessibles, en tout cas pour une bonne partie d'entre eux. Donc, je pense que voilà, il faut être dans la nuance. En 2025, il est tout à fait possible qu'on atteigne ces objectifs, mais à condition de surmonter les manches dès maintenant. Et effectivement, là où je serais plutôt précautionneux, c'est de me dire, bah, si on ne le fait pas dès maintenant et si on ne considère pas qu'il y a des enjeux, alors oui, là par contre, on va rater ce rendez-vous et là, ça risque d'être compliqué.
Pour finir, on a voulu savoir s'il existait des aides financières pour encourager et accompagner les entreprises dans leur transition accessible pour 2025. Si ce n'est pas le cas, est-ce que cela pourrait aider d'en mettre en place ? Fernando continue à nous éclairer sur ces points.
À ma connaissance, il n'y a pas d'aide pour ça, en particulier puisque je vous rappelle que les seuls qui sont assujettis à cette obligation sont celles qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Donc je pense que là, le résumé consisterait à dire que quand vous faites un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, normalement vous devriez pouvoir considérer la question de l'accessibilité numérique et procéder à sa mise en place dans vos chaînes de production sans que ça affecte vraiment vos résultats. Enfin, ça paraît assez raisonnable. Maintenant, on peut parfois travailler cette question un peu différemment, c'est-à-dire pour des logiciels métiers, par exemple, comment remonter au niveau des éditeurs pour que ces logiciels métiers soient rendus accessibles et puissent du coup être des outils qu'on va pouvoir proposer, que ce soit pour des services publics qui vont employer des fonctionnaires en situation de handicap ou des entités privées qui vont employer des salariés en situation de handicap. Et donc là, on peut par moment solliciter des aides selon le type de logiciel, si c'est des intranets, etc., pour les mettre en accessibilité. Là, il peut y avoir des fonds comme le fonds d'insertion pour les personnes handicapées secteur fonction publique ou la GFIP qui est son équivalent pour le secteur privé. Et donc, dans certaines conditions, il est possible de monter des projets pour voir comment améliorer l'accessibilité de ces interfaces. Mais ça reste voilà, des choses sur projet avec des conditions particulières, notamment liées à l'employabilité des personnes en situation de handicap pour les entités publiques ou privées que j'ai citées tout à l'heure.
Donc les décisionnaires s'emparent plutôt d'enjeux professionnels par rapport à l'accessibilité, c'est ça ?
En tout cas, aujourd'hui, un peu pour moi, c'est une des portes que j'imagine, très clairement. Après, voilà, enfin, on redit ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, ne pas s'emparer de cette accessibilité numérique, au-delà du fait de savoir comment on l'a fait financer, c'est quand même se couper d'une partie du marché. Et donc, si je n'ai pas accès à une plateforme de course en ligne parce qu'elle m'est inaccessible, mais si j'en ai repéré une qui, elle, l'est, alors, il est possible que du coup, une bonne partie du secteur des personnes en situation de handicap va prendre le pli d'aller vers cette entité-là plutôt que l'autre en disant bah, « celle-là, elle fait un effort, donc je reconnais qu'elle fait un effort ». Et même si elle vend, par exemple, des produits différents ou si elle a une tarification différente, en termes d'expérience utilisateur, je vais m'y retrouver et donc je vais consommer chez elle.
Fernando nous le rappelle et Nicolas en parlait aussi dans le premier épisode. L'accessibilité répond également à des enjeux commerciaux. Au moins 20% des utilisateurs et utilisatrices ont des usages spécifiques qui nécessitent de prendre en compte l'accessibilité. Évidemment, on aimerait que les convictions et la bonne volonté suffisent. Mais aujourd'hui, on constate que malgré les législations et les besoins de plus de 13 millions de Français et Françaises, 90% des sites internet français sont soit inaccessibles, soit partiellement inaccessibles. On n'y est pas encore, quoi. Le podcast touche à sa fin. Merci à nos intervenants et intervenantes d'y avoir participé et de nous avoir éclairés sur le cadre légal entourant l'accessibilité numérique. On se rend compte qu'en France, on est encore loin du compte. Il existe des lois, ce qui est déjà un premier pas, mais elles ne sont généralement pas respectées, faute de réelle application juridique, notamment au niveau des sanctions, qui restent rares, voire inexistantes. On pourrait prendre exemple sur certains voisins européens comme le Portugal, ou encore sur les États-Unis qui sont bien meilleurs élèves que nous en la matière. Le problème que l'on rencontre, c'est la sensibilisation de nos décisionnaires aux enjeux de l'accessibilité et l'inclusion numérique. Si tout le monde y était plus sensible, on verrait les choses avancer plus rapidement. Bref, c'est une question d'empathie finalement. Et pour faire preuve d'empathie, le mieux c'est de se mettre à la place des personnes qui vivent ces problématiques au quotidien. On en parle justement dans notre prochain épisode. Restez connectés. D'ici là, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Merci beaucoup.
Cette série de podcasts fait partie du projet éthique de l'agence Hippocampe. Notre mission, rendre le web et l'entreprise plus éthiques. Nos trois objectifs, rendre nos pratiques encore plus humaines, renforcer notre sensibilité écologique et opter pour une gouvernance transparente. Chaque trimestre, on s'intéresse donc à un objectif et une initiative qu'on veut mettre en place pour y répondre. Retrouvez toutes nos initiatives sur notre blog Ebullition, un outil pour la croissance numérique éthique des entreprises.